Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, c'est avec Alain Desrumeaux que nous allons revenir aux sources du christianisme d'expression syriaque. Nous sommes en Haute Mésopotamie, dans le sud-est de la Turquie actuelle, une ville qui s'appelait autrefois Édesse et qui s'appelle maintenant Urfa, même Şanlı Urfa. Une petite ville, une grande ville maintenant, mais qui était une capitale, la capitale d'un royaume, et d'un royaume dont le souverain est devenu assez tôt chrétien. Alors nous en avons déjà parlé, Alain Desrumeaux vient régulièrement. Bonjour Alain.
Bonjour Sébastien.
Voilà, vous êtes un habitué de l'émission, mais vous venez pour une forme d'exclusivité cette fois-ci, c'est que vous nous réservez la primeur d'une information, en tout cas sur nos ondes de Radio France, la découverte d'une inscription. Et d'une inscription, j'ai l'impression, qui bouleverse notre connaissance de ce christianisme syriaque. Qu'en est-il ?
Oui, je voulais en parler avec vous parce que, évidemment, vous êtes l'un de ceux qui connaissaient très bien cette région, pour certains villages peut-être même plus que moi, et vous savez l'importance de la naissance du christianisme dans cette région. Je rappelle tout simplement quand même, parce que à chaque fois il faut le redire, on l'a pas dit assez, même les universitaires n'ont pas tous pris conscience de cette dimension, malgré tout le travail que mes collègues notamment font là-dessus, hein, et vous les avez interrogés aussi. Le christianisme syriaque, c'est une des très très grandes composantes du christianisme, tout simplement. Il y a pas le christianisme grec et latin, il y a grec, latin et syriaque. Et puis il faut rajouter aussi les autres, arméniens, bon, etc. Bon, vous le savez très bien, mieux que moi encore. Mais dans la naissance de ce christianisme syriaque, on a travaillé. J'ai publié la légende du roi Abgar qui le situe à Édesse, la Şanlı Urfa, et bon, on a émis une certaine vision de la naissance de ce christianisme. On sait qu'on a un témoignage que dès 190, il y avait des évêques qui ont pris part à une grande controverse sur la date de la Pâque, qui ont écrit au pape Victor Ier. Qu'en 202, une inondation a détruit, d'après une chronique qui est très fiable historiquement, a détruit le temple de l'église des chrétiens. Donc ça veut dire que il y avait une église chrétienne à Édesse, à Urfa, en 202. Songez à ce qu'était le christianisme à Paris ou...
Alors peut-être de resituer justement un petit peu le contexte. On est on est dans ce qu'on appelle l'époque paléo-chrétienne, donc cette période de transition, ce qu'on appelle la fin de l'Antiquité tardive, d'une certaine manière, et ce qui deviendra le début du christianisme dans sa période classique, après l'édit de Constantin, la conversion de l'Empire. Voilà, nous connaissons bien cette suite. Mais ce dont vous nous parlez, en fait, c'est cette période intermédiaire qui est très peu connue, peu documentée. Alors, on connaît la présence de la chapelle chrétienne à Doura Europos, par exemple.
Voilà.
Donc, on est dans ce même genre de période, dans ces périodes de transition,
Où il naît quelque chose. Alors il y a des régions où semble-t-il, et paradoxalement, dans l'Empire romain, c'est plus des régions des lieux de persécution, semble-t-il, ou en tout cas, bon, même s'il faut réviser souvent, mais les martyrs, c'est la période des martyrs. Là, on est dans une région où il y a une sorte d'attente et il va se passer des choses. On ne parle pas de martyrs à cette époque dans à Urfa. On a des attestations. Bardezane, le philosophe, qui est mort en 222, je crois. Autour de cette période, a écrit ou a fait écrire par son disciple Livre des lois des pays, qui est un ouvrage philosophico-théologique chrétien. On sait qu'en 232. Les reliques de l'apôtre Thomas ont été rapportées, censées être mortes sur la côte est de l'Inde, ont été rapportées à Édesse et ont été mises dans une grande église, la cathédrale sans doute, ou en tout cas le martyrium de saint Thomas, à Édesse. Évidemment, là, archéologiquement, on n'a pas encore retrouvé ça, parce que la situation est quand même pas très simple. Et on sait qu'il y a eu un évêque en 325 d'Édesse, qui a participé au grand concile de Nicée, qui a été sans doute on pourrait dire le concile fondateur de l'organisation de toute la chrétienté d'Asie, du Proche-Orient et d'Asie mineure, du Proche-Orient et d'Égypte et d'Occident. Et puis bien sûr, tout le monde sait que le grand saint Éphrem est venu s'installer à Édesse en 363. Donc voyez, entre le premier témoignage en 190 et puis vraiment la manifestation théologique, poétique, spirituelle, intellectuelle à Édesse avec Éphrem, on a entre 190 et 363, on a là toute une histoire qui est en train de se développer. On n'avait aucun témoignage archéologique. De grands témoignages archéologiques, on n'en a toujours pas. Je veux dire, on n'a pas une grande église. Et vous faisiez bien de rappeler tout à l'heure que dans la région, le seul témoignage archéologique, c'est Doura Europos, la fameuse maison chrétienne à côté de la synagogue qui a été superbement exposée à l'Institut du monde arabe.
Nous avons reçu Pierre Le Riche qui est venu nous parler cet été de ces découvertes, de ces fouilles justement sur le site, pour nous rappeler effectivement l'importance de ces témoignages et de l'importance unique pratiquement.
Unique, oui.
Comme l'inscription dont vous allez nous parler.
Alors,
maintenant.
Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que, découverte, on m'envoie des photos, un ami archéologue turc, avec qui j'ai déjà travaillé à Zegma, qui m'envoie les photos de... plusieurs photos, et il y a plusieurs inscriptions sur mosaïque. Et là, j'ai eu un choc. Parce que, bien sûr, j'ai étudié assez longuement les inscriptions d'Édesse, et il y en a beaucoup. Il y a eu un livre très important qui a été fait par mes collègues et amis Han Drivers, qui est décédé depuis, et puis John Healey, qui est un très grand savant britannique. On a un corpus d'inscriptions, on a des tombes païennes, mais je dis pas, on devrait pas dire païennes, les tombes des gens d'Édesse, tout simplement.
Oui, c'est un mot qui n'est plus accepté maintenant dans le milieu de la recherche.
Voilà. C'est
ce qui précède le christianisme, il y avait d'autres religions, d'autres fois.
Et Édesse étant situé entre le monde romain et le monde parthe, et on le voit très très bien sur ces mosaïques qui représentent des personnages, des familles d'ailleurs, souvent l'homme, la femme et les enfants, et qui indiquent que le propriétaire de la tombe a construit la tombe pour lui, et pour ses enfants et ses héritiers. C'est la formule consacrée. Bon, on connaît ces formules-là, elles sont récurrentes, et le type de mosaïque est bien connu, avec une grande entrée, et puis sur trois côtés, devant et à gauche et à droite, vous avez les arcosolia, c'est-à-dire les lieux où les lits funéraires sur lesquels on déposait les corps. La surprise, c'est que dans deux de ces tombes, il y a des inscriptions, mais alors avec la même formule. C'est-à-dire la formule qui est datée, hein, parce que on a des datations. Je vous cite simplement une tombe d'un monsieur Selouk, fils de Mokrimou. Tout ce qu'il y a de plus local. Daté exactement de 201-202. Et puis, on a une tombe d'un certain Aftouha. Ouais, c'est de l'araméen, vraiment local.
Ce sont des noms d'origine araméenne.
Fils de Barnaï. Et qui est daté de 228. Les archéologues turcs ont dégagé tous les abords de la citadelle. Et là, ils ont trouvé un tombeau dans lequel il y a une mosaïque qui est inscrite. Alors, moi, il faut restituer moi, hein. X, là, le nom est perdu. Mais tout le reste est intégralement conservé. Fils de Abdou, fils de... Alors, Abdou, c'est un nom aussi du lieu. Hein. Fils de Marioun, qui est aussi un nom araméen. Moi, j'ai fait cette... maison d'éternité, si on utilise la traduction littérale, hein, Bet Alma, pour moi, pour mes enfants et pour mes héritiers. Mais c'est exactement la formule qu'on connaît de toutes les tombes locales depuis l'an 100, en gros, jusqu'à l'an 220. C'est attesté entre 100 et 220. Et sauf que là, il y a des croix. Il y a trois croix.
Nous sommes avec Alain Desrumaux ce matin pour évoquer la découverte d'une inscription dans une tombe à Urfa, au sud-est de la Turquie actuelle, donc dans ce monde syriaque, et une inscription, une série d'inscriptions, ai-je l'impression, qui nous renseigne de manière différente sur cette origine du christianisme syriaque.
Exactement. Et je ne peux que la dater. Alors évidemment, peut-être que des gens me contrediront avec des arguments, mais en tout cas, l'hypothèse, c'est d'après l'écriture, la formule et la structure de l'inscription, c'est daté vers, disons, 230-240.
Donc la toute première moitié du troisième siècle de notre ère. Voilà. Est-ce qu'il y a des équivalents dans l'histoire du christianisme?
Je citerai pas. Non, peut-être. Bon, dans le monde latin, il faut regarder, mais dans des situations complètement différentes, parce que là, nous sommes ouvertement dans la civilisation d'Édesse. Cette civilisation romano-parthe, si j'ose dire, araméenne, bon, il s'agit de citoyens de la cité, puis ils sont là comme tout le monde, sauf qu'ils sont chrétiens.
Et ces croix, voilà, indiquent qu'ils sont chrétiens. Ils sont devenus chrétiens.
Et qu'ils sont devenus, ils sont sans doute paisiblement devenus chrétiens. Alors il y en a une deuxième qui confirme ça, alors qui est peut-être un peu plus tardive, que je mettrai au IVe siècle, peut-être autour de 300. Et on a la même inscription. Alors là, cette fois-ci, c'est une croix très grande, une croix en queue d'aronde que j'appelle, grande. Elle occupe tout le centre de la mosaïque et tout autour on a l'inscription et la même formule, la formule traditionnelle des gens d'Édesse depuis. Alors Café Axentos, et on ne sait pas bien ce nom-là, bon, est peu connu, mais enfin, Café Axentos, cette maison d'éternité, Bet Alma, pour lui et pour ses enfants et pour tous ses héritiers. Donc on a la formule traditionnelle et on n'a pas de mots chrétiens. On est encore dans la tradition d'Édesse, araméenne, romano-parthe, comme on peut l'appeler. Et, mais elle est vraiment... Alors là, cette fois-ci, c'est une énorme croix. Elle est très grande, très 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 grosse croix, explicite. Voilà. Donc, je rajouterai un troisième témoignage qui m'intéresse, qui est, qu'on souligne peut-être pas assez, dans un troisième tombeau, un monsieur Gadia avec sa famille, alors il y a sa femme, son fils et sa belle-fille, c'est assez sympathique, comme avec les beaux portraits, tout, alors toujours pareil, les portraits qu'on trouve en l'an 200, en l'an 180, ils sont bien connus, ils ont été dessinés, ils ont été étudiés par le père Leroy, celui qui a travaillé autour Abdil.
L'abbé Leroy, oui.
L'abbé Leroy. Et alors, c'est un tombeau, donc, alors là, lui traditionnel, il n'est pas chrétien, et dedans, il y a un fragment de stèle. Qui n'est pas sur la mosaïque, mais qui a été ajouté, apporté parce que et qui prouve que la tombe a été réutilisée, remployée par un chrétien et qui s'appelle alors lui c'est explicitement chrétien dans la formule. Il y a des croix, bien sûr, gravées au début de l'inscription. C'est gravé sur une pierre, hein, c'est pas une mosaïque. Tombe du diacre Saba. Diacre Saba, avec une croix, bon, on ne fait pas plus chrétien.
On ne peut pas se tromper là.
Fils de Jean et d'Élie. Fils de Jean, Jean qui est aussi un nom chrétien, et d'Élie qui est un nom traditionnel de l'Ancien Testament qui a été repris par...
Alors vu les descriptions que vous faites de ces mosaïques, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit aussi de familles patriciennes. Est-ce que ça voudrait dire peut-être que les élites, à l'imitation de la conversion entre guillemets du roi Abgar, donc le souverain de cette petite royauté, aient voulu le suivre, peut-être l'imiter dans cette voie?
Votre remarque est très juste. Je pense qu'effectivement, on pourrait parler de famille patricienne, aristocratique. D'ailleurs, quand on songe au nom Abdou, que je vous ai cité, le monsieur Abdou qui est chrétien, là, du 3e siècle, du début du 3e siècle, vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'est un nom qui est cité dans la doctrine d'Adai. Donc, quand la doctrine d'Adai, donc l'histoire du roi Abgar et de Jésus, raconte la venue de l'apôtre Adai pour parler de Jésus à l'invitation du roi, bon, ça, selon la légende, il cite, la doctrine cite que il y a autour du roi toute sa cour. Il y a la reine, évidemment, Shalmat, il y a des aristocrates, il y a des princes qui servent le royaume, et dont un monsieur Abdou. Donc, sans doute, la doctrine d'Adai connaît bien ce milieu, connaissait bien ce milieu et a repris des noms qui étaient les noms traditionnels de ce royaume avant le christianisme. Et on voit là la tombe du chrétien Abdou. Ben, c'est une preuve supplémentaire que c'est bien dans ce milieu-là que le christianisme est né paisiblement, je dirais, tranquillement.
Alain Desrumaux, vous êtes allé en Turquie vous-même, vous avez rencontré ces archéologues. Est-ce que vous avez pu voir ces mosaïques?
Alors, je les ai vues. Et bon, j'ai travaillé surtout sur les photos, bien sûr, mais j'ai vu les mosaïques et j'ai même vu alors quelque chose d'assez surprenant à Haran. Il faut en parler parce que...
Qui est un peu plus au sud, hein, qui est vers la frontière syrienne, en plein désert.
Voilà, à 40 km d'Urfa. Et à Haran, c'est, bon, on ne peut pas en parler là, c'est assez compliqué. C'est un très très grand site dans lequel on a situé peut-être la naissance des Sabéens. Bon, peu importe. Où on avait trouvé des inscriptions syriaques, et notamment une inscription qui parlait d'un tombeau, alors traditionnel, là encore, gravé sur pierre, et puis une inscription sur un chapiteau, sur la lisière du chapiteau, la bordure supérieure du chapiteau. Mais c'est tout, avec du syriaque, difficile à lire, mais c'est des lettres, ce sont deux mots syriaques. Et on se demandait ce que c'était. On disait un bâtiment public ou quelque chose comme ça. Or, surprise énorme, dans les nouvelles découvertes d'Édesse, il y a un fronton un tombeau dont le fronton est superbement orné, sculpté avec des feuilles. Très délicat, très fin, un très beau fronton. Les deux colonnes et deux chapiteaux. Et sur l'un des chapiteaux, identique à celui de Haran, avec, pareil, la même, une inscription syriaque.
Ce qui voudrait dire ?
Ce qui voudrait dire qu'il y a tout un monde qui, c'est pas seulement Édesse, c'est vraiment...
une emprise régionale.
Une emprise régionale.
Vous avez été ému de voir ces mosaïques ?
Ah ben, j'ai été ému.
Le chercheur que vous êtes ?
C'est... Ça fait vraiment une grande émotion.
C'est unique dans une vie ?
On n'en a pas souvent. C'est assez exceptionnel, oui. Oui, oui. Et c'est une chance de pouvoir participer à des découvertes qui ont été faites par des archéologues turcs que j'aime bien, que j'apprécie, qui font un gros effort pour mettre en valeur leur région, qui essayent consciencieusement de travailler et de publier. D'ailleurs,
et qui vous ont contacté pour
et qui m'ont contacté
partager.
Pour partager cela, pour que je leur donne la lecture des inscriptions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes en Turquie, et on a même un projet, j'ose à peine en parler parce que, mais quand même, ce serait bien, il faudrait une coopération là-dessus, pour former des étudiants.
Un projet qui amènera peut-être à de nouvelles découvertes,
ah,
encore plus importantes.
Parce qu'ils fouillent Haran et ils ont découvert, alors, la grande surprise, encore une autre surprise. Alors là c'est un vrai choc. C'est la base d'une statue avec trois lignes d'inscription syriaque. Alors là, que je dois qualifier de païenne peut-être, et qui nous révèle une dédicace à la déesse Nikkal. Alors ça, la déesse Nikkal qui était connue comme étant présente à Haran, donc qui est la ville de Carré, hein, enfin avant la ville de Carré, la déesse qui sa présence était connue, mais uniquement par des textes, uniquement par des témoignages. Mais là, c'est la première attestation archéologique de la présence de la déesse Nikkal à Haran.
Avec Alain Desrumaux ce matin autour de la description de ces nouvelles inscriptions en Turquie du Sud-Est.
Merci à vous Sébastien de permettre de parler à tout le monde de cette belle découverte.
Alors vous reviendrez parce que j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles découvertes à Haran,
oui,
dont vous,
oui,
vous partagerez avec nous. Voilà, je remercie Dany Journaud, Anne-Catherine Lochard, Benjamin Vignal pour la réalisation de cette émission. Émission que vous pouvez retrouver en podcast, et nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche.